C'est vrai que c'est beau ici.
Si on prenait le vignoble à zéro, on pourrait faire un vin magnifique.
Mais il y a tout ici, y a absolument tout.
CO2, mon amour.
Il y a des bois, il y a des vignes, il y a des fruits, il y a des légumes.
Il y a même une source.
Beaucoup de gens pourraient vivre ici.
Ouais. Ici, au moins 100. On pourrait faire un très grand potager là-bas.
Ouais.
Planter des pommiers, des poiriers, un peu de blé.
On pourrait agrandir la basse-cour.
Oh oui, les œufs frais.
Denis Chesson.
Vive la Révolution !
Vive la Révolution !
Et oui, ça va être très nature aujourd'hui. Bienvenue dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 mon amour, parce qu'on n'attend pas le changement, mais que nous sommes nous-mêmes le changement. Ben oui, c'est comme ça, on y croit, avec Éric Mainviel et Philippe Duclos à la technique, et assisté de Claire Destacan, c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Avec une petite humeur, bah ouais, comme d'habitude, bonjour les bois, encore couronnés de verdure d'automne. Mais par les champs nus et frais au sortir de ma voiture, ah, mon diesel de litre TDI, norme Euro 5 m'a trahi, alors que je te croyais propre, ah, vilaine voiture. Volkswagen s'est pris les pieds dans l'accélérateur de particules, fine, et l'on découvre soudain la porte de la cave secrète, vous savez, ce petit logiciel où croupissait la vérité. En fait, celui qu'il faut virer, c'est le créateur du logiciel, parce qu'il l'a mal installé. Ah bah oui, sinon on n'en serait pas là, ah, il est maladroit. Il fut découvert par une ONG américaine, ICCT, spécialisée dans les transports propres, et à sa tête, Drew Kojak, qui est un vrai furieux méticuleux qui traque la pollution de l'air. Mais sans doute faut-il encore, chez nous, sauver le soldat diesel. Hein. Tout sera bon pour le cajoler, subventions, couverture d'or et de survie. Discours du gouvernement, sauf de Ségolène Royal, hein, qui a pris ses distances. Alors c'est vrai que les Américains roulent peu au diesel en voiture particulière, et la France, on le sait, c'est 60% du parc. Et nous continuerons de rouler un bout de temps encore avec une sous-estimation de 35% de consommation, pollution. Entre les tests-usines et la réalité routière, ça, au moins depuis quelques jours, c'est bien ancré maintenant dans la tête de nos concitoyens. Comme on ne manque pas d'air, tenez, eh ben, saluons la journée nationale de l'air qui a eu lieu cette semaine. Un nez, deux poumons, ça avait déjà trois raisons de respirer 15 000 litres par jour. Alors, fallait y penser, hein. Alors, ça veut dire quoi? Eh ben, peut-être que 364 jours sans ouvrir les poumons, juste aspirer par petites bouffées de dansantes et fines poussières et molécules, sans avaler goulûment ce bon oxygène neuf, hein, qui sera bientôt vendu en grande surface, en bonbonne, au rayon santé et bricolage. Bon, je sais que c'est pas Pékin, que c'est pas Shanghai encore, mais quand même. Et de la noblesse et de l'ancien régime, eh bien, l'air des villes n'a gardé que les particules. Et oui, c'est comme ça. Et dans le salon, richement décoré, mon canapé chinois diffuse un formaldéhyde grand cru délétère. Alors tenez, à ce sujet, moi je tiens à saluer vraiment le travail de fond et précurseur depuis des années de l'Observatoire de la qualité de l'air intérieur, présidé par André Buchmann, parce que vraiment ce sont des femmes qui s'avancent très très bien sur ce domaine. Dans la cuisine, même ma salade se parfume toujours, ou tradition, au dichlorodiphényl, dichloroéthane, DDTisé, hein. Certes, on va me dire rémanence du passé, interdit depuis des lustres et principal responsable du printemps silencieux des oiseaux et aussi souvent des abeilles, mais dont certaines molécules s'achètent sans problème en Espagne et ailleurs, le principe premier de tout commerce étant de vendre n'importe quoi à tout prix. Et alors, les contrôles à la frontière seront peut-être plus rigoureux pour les clopes, les cigarettes que pour les pesticides. Alors oui, passer à l'action, sortir des moulins à prière, il est plus que temps. Ce combat-là, nous devons et nous pouvons d'ailleurs le gagner en partie. Je vous le disais la semaine passée, hein, nos indignations, nos émotions nécessaires mais quand même gentiment stériles, se transforment à un moment en courage. Et Hannah Arendt nous stimule chaque jour quand elle dit « seule l'action sauve ». Alors au jour le jour, localement, plus loin même, grâce d'ailleurs à la population que nous sommes, aux jeunes souvent plus en avance que nos décideurs et le monde industriel. Et tenez, demain à Paris, c'est la journée sans voiture et sans Volkswagen, et ça nous fera du bien. Au menu de cette émission, eh ben tenez, avec Éric Tourneret, photographe de son état, les routes du miel. Alors peut-être déjà quelques mots, Frédéric, parce que vous avez sorti Éric Tourneret, car vous avez sorti ce formidable livre, Les routes du miel, aux éditions Ozoni. Et là, c'est en fait le fruit de vos pérégrinations. Alors, depuis combien d'années, Éric Tournoret ?
Alors, j'ai commencé ce travail il y a 10 ans, en fin de compte, sur l'abeille, hein, vraiment sur l'apiculture en France. Et après, j'ai eu envie d'élargir ce travail au monde entier pour témoigner, en fin de compte, de la réalité d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe pour les abeilles aujourd'hui dans le monde ? Et en même temps, cette relation qui est très ancienne entre l'homme et les abeilles, j'ai eu envie de la décortiquer. Donc, c'est vrai que c'est une relation qui date du palais. Néolithique.
Donc avant l'agriculture.
Bien avant l'agriculture. Et déjà à l'époque, les gens récoltaient le miel pour le transformer en hydromel, donc la plus vieille boisson alcoolisée utilisée par l'homme. Et je voulais témoigner de cette merveilleuse histoire qui vous ramène aux grandes civilisations agricoles, car nous sommes issus d'une grande civilisation agricole.
Et évidemment, il y a votre regard, c'est votre boulot de photographe, vous me direz, mais c'est assez extraordinaire, on pourra bien sûr y revenir. Et on va picorer, on va dire, dans différents pays. Puis bon, là, c'était donc l'actualité, on l'avait un peu compris donc aussi avec Volkswagen. Bon, on va se tourner, tenez, vers Frédéric Denry, il a sûrement des petites choses à dire.
Bonjour Frédéric Denry.
Bonjour Denis Gessou.
Alors, une petite coccinelle, a priori, voiture Volkswagen.
Das Auto.
Donc, ne peut pas polluer, car coccinelle aime beaucoup la nature. Quand même, alors, beaucoup de choses ont été dites sur cette affaire donc, de Volkswagen. Pour vous qui avez aussi écrit la fin du tout voiture, quelle est votre réflexion ?
Pour moi, c'est la preuve que le diesel n'a pas d'avenir. C'est la fin du diesel. Parce que si un constructeur comme celui-ci se sent obligé de mettre une puce pour que les tests soient faussés, c'est bien qu'il sait que son moteur, aussi technologique soit-il, avec tous les équipements anti-pollution dont il est équipé, il sait que son moteur de toute façon va polluer. Pourquoi ? Parce qu'en conditions réelles d'utilisation, c'est-à-dire en ville, tout moteur diesel pollue. Et que si l'on veut adapter ces moteurs à Euro 6, par exemple, à la norme Euro 6, qui va réduire drastiquement les émissions de particules et d'oxyde d'azote, le moteur diesel va devenir tellement complexe qu'il sera de fait plus utilisable dans les conditions réelles de circulation. Tellement complexe, ça veut dire sujet à panne, sujet à casse, tout simplement, avec un coût considérable pour les possesseurs de voitures. Voilà ce que ça m'inspire, moi, cette histoire de Volkswagen.
Et pour les camions, en revanche, ça va rester quand même un certain temps, a priori.
Oui, alors sauf à l'entrée des villes, il faut bien savoir que le moteur diesel, de par les normes anti-pollution et de par les technologies qui sont utilisées pour respecter ces normes anti-pollution, ce moteur diesel a besoin d'un certain temps pour chauffer, a besoin d'un certain temps pour tourner à un certain régime. Qu'atteignent les semi-remorques ? Au-delà de 150 km, un semi-remorque à 80 à l'heure pollue quasiment rien. Honnêtement, quasiment rien. En tout cas, beaucoup moins qu'une voiture, une petite voiture en ville. Donc, le diesel sera toujours d'actualité pendant encore longtemps pour les transports lourds, y compris pour les autocars de M. Macron. Mais par contre, en ville, dès lors que vous aurez une conduite par sursaut, c'est-à-dire vous roulez un peu, vous freinez, vous ralentissez, etc., vous êtes en moyenne à moins de 30 km/h, là, le diesel, il est fini parce que sa technologie nécessiterait que le conducteur s'adapte à son moteur, ce qui est impossible en ville. Donc encore une fois, Volkswagen, c'est bien cette affaire-là, la mort, à mon avis, c'est la mort du diesel.
Alors si c'est la mort du diesel pour les petits véhicules, les véhicules de Monsieur Tout-le-Monde, ça veut dire que c'est un renouveau de l'essence ou bien du moteur électrique ?
Moteur électrique, non, c'est un renouveau de l'essence. Aujourd'hui, là, c'était très complexe de le faire avant, très compliqué, on n'y arrivait pas. Et aujourd'hui, on applique les technologies, certaines technologies du diesel au moteur à essence, avec l'avantage que le moteur à essence est finalement un moteur moins complexe et qui ne nécessite pas tous les inconvénients du moteur diesel en termes de conduite. Donc oui, l'avenir est au moteur essence dit haute pression, en rampe commune, tout ce que vous voulez, des technologies où en fait on injecte l'essence à très haute pression et qui font que ces moteurs consomment beaucoup moins qu'avant et n'émettent quasiment rien derrière à part un peu de benzène. Voilà. Et puis ensuite, oui, couplé à ce moteur essence, c'est le moteur électrique et là on retrouve tout l'intérêt de l'hybride. Quant à l'électrique, là, c'est un vaste débat. Je ne suis pas convaincu que ça défrise les foules. C'est pas tant lié, le moteur électrique, à l'autonomie qu'à la pérennité des batteries que personne ne connaît, en fait.
Oui. Et puis, lorsqu'on est, par exemple, habitant en montagne, c'est vrai que là, le 4x4 peut se justifier parfaitement. Beaucoup de personnes vous disent, oui, mais attendez, l'avantage du diesel, c'est qu'il y a un couple qui est quand même assez bas, et donc ça permet d'avoir des reprises très différentes par rapport à l'essence où ça ne va pas, quoi.
Que vous avez ce couple encore meilleur avec le moteur électrique, parce qu'il n'y a pas de pièces mécaniques. Essayez un véhicule électrique, qu'il soit électrique pur ou hybride, démarrez avec. Le couple est extrêmement élevé. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de pièces mécaniques. Donc il y a 90% de l'énergie est réellement utilisée. Dans un moteur à combustible fossile, c'est avec les meilleurs diesels, on est à 34-35%. et on n'arrivera jamais à plus de 36-38% sans doute. Donc si vous voulez du couple, prenez un véhicule électrique. Vous allez me dire, en montagne, c'est pas possible. Parce que, parce que essayer de monter une côte en véhicule électrique, la consommation énergétique sera trop forte. Donc oui, le diesel a encore tout son intérêt en zone rurale si vous conduisez longtemps, en zone montagneuse, mais en ville, si vous voulez du couple, de l'énergie et une conduite un peu sportive au démarrage, parce que sinon vous bouffez la batterie, eh ben c'est le véhicule électrique.
Voilà, bah écoutez, merci beaucoup Frédéric pour cette petite actualité, hein, ce petit décryptage. Je peux renvoyer d'ailleurs à son ouvrage, hein, La fin du tout voiture, il l'a sorti chez Actes Sud il y a déjà un certain temps, mais c'est toujours formidable. Elle ne marche pas du tout au diesel ni à l'essence, ça marche au pollen, hein, les abeilles, hein, je crois que c'est ça.
Au pollen et au nectar.
Au pollen et au nectar, c'est très bien, et bon, durée de vie, elle est quoi, 5-6 semaines, hein, c'est
ouais,
ça.
Oui, c'est ça aussi.
Ouais, d'accord, bon, on les vendra pas sur d'occasion, mais ça va nous faire très plaisir de parler d'elle, donc Les routes du miel avec Éric Tourneret.
Non, je ne suis pas, non, je ne suis pas Maria Iudina. Je n'ai pas de revolver au fond de mon sac, pas de clé de phare. Et pourtant, j'entends les marteaux si souvent, là sur le piano. Non, je ne suis pas, non, je ne suis pas. Je n'ai pas de rhapsodie, pas de symphonie. Au bout de mes doigts, j'entends, oui j'entends taper les marteaux si souvent. Là sur le piano, non je ne suis pas, non je ne suis pas Maya Iudina. Non je ne suis pas, non je ne suis pas Maya Iudina. Première à garder la foi.
Les abeilles se posent sur les fleurs diaprées et s'épandent autour des lys blancs. Et sur tout le champ résonne un sourd bourdonnement. Quand le soleil d'or a mis l'hiver en fuite et l'a relégué sous la terre, poursuit Virgile dans les Géorgiques, quand le ciel s'est rouvert à l'été lumineux, aussitôt les abeilles parcourent les fourrés et les bois, butinent les fleurs vermeilles et effleurent légères la surface des cours d'eau. Transportées alors par je ne sais quelle douceur de vivre, elles choient leur couvée et leur nid, façonnent avec art la cire nouvelle et composent le miel.
C'est Jean-Claude Amezen qui a préfacé votre livre « Les routes du miel », Éric Tourneret et Silas de Saint-Pierre aux éditions Ozoni. Et évidemment que cet homme-là adore ceci, d'autant plus que on est avec les abeilles dans un co-développement quasiment parfait entre ces abeilles et puis les premières fleurs.
Ah oui, tout à fait. Il y a vraiment une union entre les abeilles et les fleurs, une coévolution. Et c'est assez extraordinaire car cette coévolution a produit une quantité de protéines végétales extraordinaire qui a aidé les mammifères à devenir l'espèce prépondérante sur Terre.
Alors au Paléolithique, donc avant, on va dire, cette agriculture, on voyait déjà alors des cueilleurs ou des abeilles sur l'art rupestre dans les grottes.
Alors oui. Il y a de l'art rupestre donc qui atteste de ce lien entre l'homme et l'abeille. Il y a la fameuse grotte de l'araignée qui se trouve à côté de Valence en Espagne, où est dessiné un homme ou une femme sur une corde en train de récolter un nid d'abeilles sauvages. Et c'est assez touchant. D'ailleurs, cette grotte a été classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais aussi beaucoup plus loin en Indonésie, il y a 10 000 ans, on a aussi découvert à l'est de Bornéo. On a découvert des peintures rupestres qui montraient les abeilles géantes déjà présentes.
Alors, symbole, évidemment, on le sait, soit de royauté, soit pour les empereurs. Il y a aussi l'aigle, hein, qui a été très, très bien mis en avant. Et alors, chez les Mayas, la cérémonie collective est sacrée.
Oui, tout à fait. Chez les Mayas, c'était des abeilles standards, donc qui ne piquent pas, qui étaient élevées par les femmes. Et en 1575, il y a des papiers qui attestent du paiement des Mayas, de l'impôt par les Mayas, avec un don à la couronne d'Espagne de 227 tonnes de cire. Donc c'était une quantité très importante à l'époque. Et donc, à cette époque-là, Cortés est tombé sur des ruchers de 2000 ruches qui étaient, en fin de compte, où les abeilles étaient élevées par des femmes.
Et si on revient chez nous, allez, on est au 9e siècle, Charlemagne, qu'est-ce qu'il a fait ?
Il a fait des décrets qui obligeaient chaque villae, donc les anciennes villas romaines, à posséder 2 à 3 ruches.
D'accord. Alors aujourd'hui, si on prend quelques chiffres quand même, parlons un tout petit peu d'actualité avant de repartir avec vous sur ces routes du miel. 1995, on produit en France 30 000 tonnes, en 2011, 20 000 tonnes, en 2014, 10 000 tonnes. Fort heureusement, cette année, donc, remontée sûrement des volumes. Alors, il faut dire que les conditions climatiques, quand même, jouent énormément.
Ah oui, tout à fait. Il y a eu 2 années consécutives qui ont été très difficiles pour les apiculteurs, en 2013 et en 2014, par rapport au climat. Mais autrement, il y a quand même une constante. Certaines floraisons qui étaient très importantes pour eux, comme le colza et le tournesol, est apparu à partir de 2008 des semences hybrides, des plantes donc qui produisent pratiquement plus de nectar et de pollen. Donc, c'était le colza et le tournesol. Et le tournesol, il y a 15 à 20 ans, a fait la richesse des apiculteurs, où les apiculteurs arrivaient à produire à peu près 100 kilos par ruche en 3 semaines à mois.
On voit ça en Australie maintenant, parce que c'est plutôt quand ils font 50 kilos par ruche, c'est déjà énorme, hein, donc chez nous en France.
Ah oui, chez nous c'est 50, 60, ouais. c'est des bonnes moyennes. Bon, certains arrivent à faire un peu plus, ouais. C'est très technique, hein, mais par rapport à l'Australie, c'est surprenant, parce que l'Australie, ils arrivent à des rendements de 160-170 kilos par ruche.
Alors, c'est lié à quoi d'ailleurs aussi ça ?
Ce qui est extraordinaire en Australie, c'est que il y a énormément d'eucalyptus, hein, c'est vraiment l'arbre endémique de l'Australie, et ces immenses forêts d'eucalyptus produisent une mielée quasiment perpétuelle.
Ah oui.
Ça veut dire que 12 mois sur 12, les apiculteurs peuvent trouver du nectar.
Si on va maintenant dans la vallée de l'Omo, alors ça va nous rappeler quand même quelques petits souvenirs, parce que les premières origines, on va dire humaines, c'est là qu'on a trouvé quand même quelques demi, trois quarts de molaires, etc. Que se passe-t-il là, en Éthiopie ?
Alors, l'Éthiopie, c'est vraiment extraordinaire.
Ça va être notre premier voyage, hein, un de nos 25 oui. voyages, on va pas faire les 25, mais voilà.
Donc, dans le sud de l'Éthiopie, dans la vallée de l'Omo, je suis parti à la rencontre des peuples de l'Omo qui sont des pasteurs nomades, des éleveurs donc qui élèvent principalement des chèvres et des vaches. Et j'ai été surpris de découvrir qu'ils sont aussi apiculteurs. Ils sont apiculteurs, ils portent des paniers vides, hein, des ruches troncs, ils les amènent sur les arbres. Donc il y a énormément d'acacias là-bas pour produire un miel excellent d'acacia.
Mmh. Alors comment ça se passe ? C'est-à-dire qu'ils récoltent la nuit aussi
Alors c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer la vie dans la vallée de l'Houmeau parce qu'on n'a pas une économie quotidienne. Eux, ils sont vraiment basés sur une économie quotidienne. Ils se déplacent uniquement à pied, donc c'est vrai qu'ils vont récolter de nuit car l'abeille est très agressive. Et en même temps, ils apportent souvent une ruche vide pour la mettre aussi sur un arbre. C'est assez extraordinaire et tout ce miel-là est récolté, ramené. C'est un miel où le miel est mélangé à de la cire, puis vendu au marché.
Alors ça se passe comment? Parce que après, il n'y a pas eu de surenchère pour eux. Ça se passe, leur mode de vie n'est pas complètement contrarié par des éléments extérieurs.
La vallée de l'Houmeau s'est beaucoup transformée, donc ces pasteurs nomades sont devenus agriculteurs. On leur a donné des terres, ils commencent à cultiver le maïs. Mais c'est vrai que l'argent a peu d'attrait pour eux, parce qu'en fin de compte, ils sont en autosuffisance. Et l'argent qu'ils retirent au marché du miel, ils vont souvent dans des bars à hydromel. Et l'on retrouve ces guerriers attablés à 200 personnes en train de déguster l'hydromel.
On rappelle que l'hydromel, c'est quand même la première boisson alcoolisée dans le monde.
Oui, tout à fait. La première boisson de l'homme, et c'était une boisson que l'on retrouve un peu partout dans le monde, hein, aussi bien en Amérique du Sud, au Mexique, en Afrique ou même en Russie. Et c'était une boisson de fête, car au moment de la saison du miel, énormément d'hydromel pouvait être brassé.
Et si on va aussi chez les pygmées, eh bien ce miel, alors là on a des hommes qui vont grimper à 40 mètres le long des troncs des arbres de manière assez étonnante. Et en fait, le miel est aussi un excellent vecteur, j'allais dire amoureux, c'est-à-dire que c'est un échange aussi, c'est une manière de séduire.
Oui, tout à fait. Le miel est important parce que, en fin de compte, dans leur mythe d'origine, les hommes ont découvert les femmes et ont pu, en fin de compte, les attraper et surtout les conserver en leur offrant du miel. Et chez les pygmées, ce qui est assez extraordinaire, c'est que c'est pour moi la seule chasse au miel, car ce sont des nomades qui se déplacent de campement en campement. Souvent, ils font un circuit de centaines de kilomètres dans l'année et ils vont chercher le miel à ce moment-là, au moment des saisons du miel. Donc il y a deux saisons du miel, la petite saison du miel en avril mai, ouais. Et puis après la grande saison du miel en août et septembre.
Si on va au sud de l'Inde, là après donc le miel des pasteurs d'abeilles, on va rencontrer le miel des intouchables, et là on est sur une autre zone qui est complètement différente.
Oui, là, c'est des montagnes dans le sud de l'Inde qui s'appelle la biosphère de Nilgiris. Hein, c'est l'UNESCO qui a décrété cette zone de biosphère. Elle compte plusieurs parcs nationaux et l'UNESCO voulait justement préserver ce lieu pour sa biodiversité extraordinaire, mais en même temps sa biodiversité culturelle. C'est vrai qu'il y a plusieurs tribus indiennes qui sont des tribus d'intouchables. Donc, ce sont des aborigènes en fin de compte qui avaient chacun leur langue, leur culture. Et une fondation les a aidés, en fin de compte, pour moderniser leur récolte du miel. Non pas la moderniser dans la récolte elle-même, mais pour mieux... pour mieux, en fin de compte, traiter le miel.
Oui.
Parce que tout simplement, avant, ils le faisaient dans des conditions très rudimentaires.
Donc ça pouvait être un peu souillé éventuellement.
Donc ils ont appris à filtrer le miel, à le presser, à bien le couper pour ne pas mélanger les larves et le miel.
Alors c'est là qu'on les voit vraiment avec un numéro d'équilibrisme complètement fou. On a déjà vu ces photos, on a vu des reportages là-dessus, mais là c'est complètement dingue parce qu'ils sont au milieu des essaims. Donc deux bottes de paille enfumées quand même pour dire aux abeilles, vous êtes gentils, mais enfin bon, ouais. Occupez-vous un petit peu d'autre chose. Et en dessous, donc on récolte le miel d'une façon folle, quoi.
Oui, tout à fait. Donc, ce sont des équipes spécialisées. C'est vrai qu'il y a des équipes et des ethnies qui sont spécialisées dans les récoltes sur les falaises et d'autres sur les arbres. Donc, sur les falaises, ils partent une dizaine de personnes en brousse. C'est vrai que faut imaginer ces abeilles géantes qui sont des abeilles qui migrent à la poursuite des fleurs, en fin de compte, et qui parcourent plus de 200 km par an. Dans une jungle épaisse, hein, on est vraiment dans le monde de Mowgli. Et avec des éléphants sauvages aussi qui sont...
Alors, qui posent des problèmes, qui posent quand même des problèmes, les éléphants sauvages.
Oui, dans les Nilgiris, il reste le dernier, en fin de compte, troupeau d'éléphants sauvages, hein, en Inde, où plus de 1000 éléphants parcourent et migrent également en passant des plaines jusqu'aux montagnes à la recherche de nourriture.
Et ils aiment bien les bananes, et oui, c'est ça aussi.
Et les villageois aussi, sont souvent attaqués, les champs des villageois sont souvent attaquées.
Bon, écoutez, on va poursuivre ce voyage avec vous, Éric Tourneret, et puis on va découvrir aussi comment faire revenir la biodiversité, ce sera dans quelques instants. Après cette chanson, je vous emmènerai pour un petit reportage, une petite page de nature aussi, de grand air avec Patrick Deschamps, et tout de suite, eh ben allons-y, je ne sais pas ce que c'est.
Les seins se gonflent et s'abandonnent à la caresse du printemps. Et dans la ruche tourbillonne, prêtes à prendre leur élan. Bzz, 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 bzz. Les abeilles.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Kinky love, kinky, I'm mad about you, kinky love. I need you so bad, I need you, kinky love. Kinky, you're all that I've been thinking of. Kinky, take me inside and let the honey slide. I need you, kinky love. Good to me, kinky, do all the things you should to me. Wake up the love asleep inside of me. Open the gates and let the river free. Oh, kinky, take me inside and let the honey slide. I need your kinky love. Late at night in my bed as I lie here somewhere in limbo land. Half awake, half asleep, halfway someplace else. I know I should be sleeping, but how can I close my eyes when you know I understand you're a man and you got to have your kinky love. Hey, don't you know I understand you're a man and you just got to have your kinky love. Kinky love, kinky, I'm mad about your kinky love. Oh, kinky, be bad, I want your kinky love. Kinky, it's all that I've been thinking of. Oh, kinky, take me inside and let the honey slide. I need your kinky love. Oh, kinky, take me inside and let the honey slide. I need your kinky love.
Kinky Love, c'est de Nancy Sinatra qui s'était invité tranquillement grâce à Thierry Dupin, notre programmateur. Et si vous venez de prendre l'émission en cours, c'est normal, il y a des abeilles dans votre transistor, votre iPhone, votre ordinateur, que sais-je. Les routes du miel avec Éric Tourneret, vous pouvez voir ça sur les grilles du Sénat, où il y a d'ailleurs du Jardin du Luxembourg, où il y avait des ruchers quand même. Hein,
oui, il y a le rucher du Jardin du Luxembourg qui est en fin de compte un rucher école depuis plus de 160 ans.
Et nous, on est très fiers du nôtre à Radio France. Hein. Là, j'en ai vu, il y en avait plein. La Philippe Clôme disait, il y en avait partout là, c'est parfait. Et donc elles sont pleines d'activité là encore, c'est très très bien. Si on se fait juste une petite, on va dire aussi actualité, on sait très bien parce qu'on en a beaucoup parlé sur France Inter dans différentes émissions aujourd'hui, et tant mieux parce que ces sujets donc maintenant sont transversaux. Quand on parle des abeilles, on sait très bien que les ennemis, c'est le manque de nourriture, c'est les néonicotinoïdes de la famille du gaucho et du régent, avec une rémanence aussi dans les sols, donc ça c'est un truc qui est assez épouvantable. Nous avons nauséa. Nous avons le varroa, donc cet acarien. Nous avons la loque française-américaine aussi, hein, qui n'est pas inintéressante. Voilà. Et puis aussi, il faut quand même le dire, de temps en temps, des pratiques d'apiculteurs qui ne sont pas toujours géniales. Bon, enfin voilà, donc c'est aussi à rappeler de temps à autre, sans en faire une généralité. Mais comment sortir de là, enfin, est-ce qu'on peut arriver à s'en sortir, puisqu'on est, on est confronté, l'abeille est confrontée à des modes de production que l'on connaît qui sont intensifs,
hein. Oui, on peut facilement, disons, on peut s'en sortir avec du temps, hein, ça serait passé. C'est en fin de compte abandonner les pesticides, les néonicotinoïdes et les autres pesticides également, parce que le problème c'est que ces milliers de tonnes de produits chimiques se retrouvent dans les eaux de surface. On n'a jamais étudié ce que font ces molécules ensemble. La santé humaine peut être en péril. Également, on a retrouvé des néonicotinoïdes dans du lait, dans des huiles de tournesol, dans du beurre. Donc c'est vrai que c'est des produits dangereux, c'est des produits de guerre qui sont utilisés pour l'agriculture. Donc on est en guerre contre la nature quelque part.
Voilà. Alors ce que je vous propose, ben justement, c'est peut-être d'essayer de faire revenir la nature. Écoutez, nous partons dans le département de l'Isère. Descente de la Chartreuse, mais en fait, on y est encore avec vous, Patrick Deschamps. On est encore en limite de ce parc de la Chartreuse et on attaque la plaine du Grésivaudan.
Ah oui, c'est-à-dire que là, on est juste sous les falaises de Chartreuse, les contreforts de Chartreuse sur l'ouest. Là. Et puis donc, on est juste à mi-chemin entre la plaine urbanisée et avec des grandes cultures industrielles, maïs et maintenant depuis quelques années noyer.
Ouais.
Et là, la chance, c'est qu'on a des coteaux qui amène aux falaises de Chartreuse, ces coteaux qui sont relativement boisés, qui autrefois étaient occupés par des vignes d'ailleurs, et qui sont peu à peu regagnés par la forêt et des pâturages. Il y a encore pas mal d'élevage dans la région, des gens qui ont des chevaux, il faut des prairies, donc comme il y a des prairies, il y a encore des haies, il y a encore un peu d'ombre, certains arbres, parce que sinon dans la vallée, il y a pratiquement plus rien. Il y a quelques bosquets d'arbres que les chasseurs laissent un petit peu sauvages de façon à avoir un peu de gibier.
Ouais.
Mais sur les collines, il y a encore des zones très très propices à la faune.
Alors nous traquions le Doubs d'un très bel été, hein, bon, c'était cet été-là d'ailleurs, tel de lézard, juste bien à marcher, un micro un peu planqué, comme ça par accident, vous savez, ça arrive comme ça dans la main. Et Patrick Deschamps, c'est un formidable naturaliste en gentille révolte face à la nature sur laquelle on referme délicatement la porte très souvent. Et comme chacun regarde côté soleil, même au travers des nuages, on va essayer de faire revenir cette biodiversité dans l'Isère avec cet amoureux Patrick Deschamps des oiseaux, de la nature, de la vie, tout simplement. Ouais, on va essayer de la faire revenir.
Patrick Deschamps, alors quand on se retourne, on est face aux Belles Donnes. On a donc la Chartreuse maintenant dans le dos. Et donc on a cette plaine du Grésivaudan qui est complètement... Alors là, c'est vraiment l'exemple de l'urbanisation galopante qui a existé entre Grenoble et Chambéry.
Oui, et encore, on est dans une zone à peu près épargnée parce que on se rapproche de Chambéry et de Grenoble, plus évidemment c'est envahi. Mais il y a une emprise énorme des lotissements parce que sur les deux bassins de travail Chambéry-Grenoble, tous les gens rêvent d'avoir leur maison à la campagne.
Ouais,
donc il y a des villas de plus en plus.
Alors dans les conséquences, il y a quand même des animaux qui les subissent, ce sont nos petits rapaces.
Oui, alors là, ici, des rapaces, il y en a encore assez souvent. Je discute souvent avec des chasseurs parce que je les connais bien. Ils sont toujours en train de dire Abus, pullule, Milan, pullule. Effectivement, il y a 4000 ans en ce moment. Il y a deux territoires de Milan, donc il y a 4000 ans.
Ouais.
Il y a deux territoires de Buse, donc il y a 4 Buses. Évidemment, l'hiver, on peut en voir plus parce qu'il y a tous les migrateurs du nord de l'Europe qui viennent chez nous. Mais en ce moment, il y a 4000 ans, 4 Buses. Point. Là-bas, dans le coteau, on voit une tache claire sur un buisson. Là, par exemple, c'est des vaches, c'est des charolaises qui pâturent. Et au milieu, l'agriculteur, souvent, il traite au Roundup. Mais il y a toujours une zone de vieux buissons de ronces et d'églantiers. Et ce buisson de ronces et églantiers en plein sud, comme ça, c'est propice à la pigrièche. D'ailleurs, il y a un mâle qui est perché là-bas et qui revient. Là, ils sont venus exactement à la même époque qu'en l'an 2000. Un mois de retard sur l'année dernière, mais à la même époque qu'en l'an 2000.
Alors cette pigrièche, c'est pas elle qui plante ses insectes sur des épineux.
C'est ça, c'est la pigrièche écorcheuse. Là, il y a le couple qui est installé maintenant. Alors dans ce buisson, ils ont déjà niché les moineaux domestiques, le merle, le bruant zizi, la fauvette à tête noire. Et maintenant, ils sont tranquilles là, dans le buisson pour planquer leur nid.
Ah, là Patrick, on est devant un champ qui a été quand même merveilleusement girobroyé, on le voit bien. Et puis là, il y a une relique, qu'est-ce que c'est ça?
Alors voilà, j'ai mis un piquet, pourquoi? C'est pour montrer à l'agriculteur qui fait passer le girobroyeur sur cette belle propriété là, parce que qu'ici il y avait quelque chose qui vivait, dont il était absolument inconscient, qui s'appelle la pigrièche écorcheur. La pigrièche écorcheur, il lui faut un gros buisson d'épineux pour planquer son nid, toujours pareil. Pourquoi on a fait des fortifications, des forteresses? C'est pour se protéger, hein. Là, une forteresse dans laquelle elle mettait son nid.
Ouais.
Mais cette forteresse s'appelle de l'églantier. Donc, pour les gens, l'églantier, c'est de la ronce, c'est de la saloperie. Donc, quand on passe au girobroyeur, le gars qu'on a payé, vous pensez bien qu'il ne va pas girobroyer là, puis pas là. Donc, il va tout girobroyer.
C'est
et donc, il va girobroyer le buisson d'églantier qu'il aurait très bien pu garder.
Donc,
ça s'appelle travailler comme des brutes.
Donc il n'y a plus de périllage.
Voilà, il n'y a plus de périllage. Donc j'ai mis ce piquet et je vais pour parler avec l'agriculteur, parce que lui, il n'est pas contre la périllage, je ne sais même pas qu'elle existe de toute façon. Mais je lui dis, voilà, laisse repousser les glantiers à cet endroit. Le reste, c'est très bien ce que tu fais de girobroyer, parce que sinon il va y avoir des repoussées de ligneux, il y aura des cornouillers sanguins, des frênes, et tu n'auras plus de prairies. Donc ça, c'est très bien pour lutter contre l'emprise de la forêt sur les zones de collines. Mais cette partie-là, si tu l'avais laissée, t'aurais permis à la pigrièche de venir nicher. Alors comme la nature est généreuse et qu'il reste encore quelques pigrièches, peut-être que dans quelques années, si on y laisse ce buisson, elle reviendra nicher. Là, et on verra des jeunes pigrièches à la saison. Là, cette année, c'est foutu.
Alors comment faire pour que chacun d'entre nous puisse, sur son petit carré, son petit lopin, faire revenir de la biodiversité ?
Déjà, je pense que quand on achète un terrain, avant de tout raser, de décaisser au bulldozer, il faut déjà regarder ce qui y pousse. Et plutôt que d'aller acheter des thuyas ou des lauriers du Caucase dans une pépinière parce que c'est pas cher, ben, il vaut mieux déterminer, par exemple, un quadrilatère qui va déterminer l'emplacement de la haie, laisser pousser tout ce qui vient, ouais. Après sélectionner et puis garder que ce qu'on veut. Il va évidemment venir des frênes, des cornouillers sanguins, des églantiers, enfin toutes des plantes sauvages. Mais les plantes sauvages, il faut bien penser que les animaux, ils s'en nourrissent depuis des millions d'années. Si on leur met que des plantes exotiques, bah, les animaux disparaissent. Parce que plus le biotope est riche, plus vous aurez des espèces. Chaque animal est lié à un biotope particulier. Si vous faites qu'une haie de thuya, bah, y a rien qui va pouvoir vivre là-dedans. Bon, il y aura des moineaux qui viendront planquer leur nid, certainement, bien sûr, mais il n'y a rien à becquer, il n'y a rien à manger là-dedans. Alors que là, rien que dans ces quelques mètres carrés, il y a 20-30 espèces différentes. Sans parler des espèces qui sont inféodées à l'eau, des espèces qui sont inféodées aux coteaux secs. Hein. Là, il y a un hêtre, là, il y a un sureau, là, il y a un érable champêtre, là, il y a un tilleul, là, il y a des acacias. Oui. C'est une variété infinie.
Donc déjà faire l'inventaire, voir ce qui pousse naturellement.
Moi, ça demande quand même de connaître un peu les espèces.
Ah oui, c'est sûr que si on connaît que le nom des équipes de foot, c'est bien, mais ça va pas.
C'est comme les gens qui gémissent tout le temps en disant il n'y a plus de papillons. C'est vrai, il n'y a plus de papillons. Mais quand je vais dans leur jardin, je comprends qu'il n'y a plus de papillons. Il n'y a pas d'ortie, il n'y a rien qui peut se nourrir des papillons. Si vous voulez, le plus beau papillon de France, c'est quand même le macaron. Le macaron, la chenille vit sur le prunelier. Qu'est-ce qui plante des prunelliers ? Personne. Personne ne plante de prunelliers. Les prunelliers, il en reste dans les haies très anciennes qui servaient à délimiter les parcelles où il y avait des vaches. Et aucune vache peut traverser une haie de prunelliers, garantie. C'est mieux que les fils de fer barbelés. Hein. Ouais. On monte tout doucement sur un sentier privé. Et là, par exemple, on voit que le soleil a sa place, donc que les plantes sauvages poussent. Tiens, il y a un très beau papillon qui passe là, à ce moment. Un papillon noir avec une bordure blanche.
Ah, attendez, bah là je vois une très jolie plante violette, mauve, mais plutôt violette.
Ah oui, alors celle-là, elle a eu chaud, parce que en fait c'est une centaurée des Alpes. Ouais. Et il se trouve que dans ce coteau qui est très bien ensoleillé, là, eh bien il vient des centaurées des Alpes et des œillets des Chartreux. Seulement, c'est une propriété privée et c'est une voie d'accès à un lotissement. Donc les gens, quand ils voient des herbes qui poussent près de la route, pour pas que ça raye la carrosserie, hein, ou les enjoliveurs en plastique.
Allez hop.
Eh ben hop, un coup de débroussailleuse. Alors moi, évidemment, j'arrive.
C'est les fameux enjoliveurs que l'on retrouve après dans les champs, dans les bas-côtés. Ben,
j'en ai une belle collection, là.
Ah bah oui. Ah, ouais. Oui.
Parce qu'on en trouve partout au bord des routes. À quoi ça sert un enjoliveur ? À rien du tout. Mais les mecs se feraient tuer plutôt que de ne pas avoir d'enjoliveur à leur voiture.
Alors donc, pour pas les rayer,
on débroussaille. Et on débroussaille, et en fait, on fout en l'air une station de centaurée ou une station d'œillet des Chartreux. Mais comme on ne connaît pas la centaurée ou l'œillet des Chartreux, c'est qu'une mauvaise herbe. Hein, parce que qu'est-ce qu'on connaît comme herbe ? Le blé, le maïs, le reste, ça n'existe pas, c'est de la mauvaise herbe.
Et donc, cette centaurée des Alpes, elle accueille, elle aussi, des papillons,
ben oui.
Et même parfois qu'un seul.
Oui, parce que par exemple, à chaque fois qu'on laisse cette station de centaurée, il y a à peu près une quinzaine de plants. Eh ben, vous avez tous les demi-deuils, les papillons demi-deuils qui rabinent sur ces centaurées. Ils sont nourrissent, enfin, il y a certainement un pollen qui est satisfait. Ouais. Et partout où il y a des centaurées, il y a des demi-deuils. Bon, je suppose que s'il n'y a plus de centaurées, les demi-deuils vont trouver autre chose. Mais on n'en voit plus. Loulou, là, c'est la vie. Le jour où ça s'arrête, ça, c'est terrible. L'année de la grande sécheresse, c'est la seule année où on n'a pas pu avoir d'eau ici à ce bassin. Parce que, en fait, l'eau qui coule, c'est le trop-plein du bassin de l'eau qu'on boit. Donc, tant qu'il y a de l'eau qui coule, ça veut dire qu'il y a assez d'eau dans les réservoirs. Le jour où il n'y en a plus, il y a un silence total ici. Et ça pèse. On arrive de prairie plein sud et on passe par un sous-bois, on longe une rivière, donc il y a une zone bombe. Il y a encore d'autres espèces qui peuvent nicher là. Et voilà, on arrive au quai des Butineuses.
Joli.
Et si on descend un petit peu le regard vers le bas, vers la rivière, on voit que ça grouille.
Oula, oui.
Et qu'on va faire une récolte de 100 kg de miel cette année, voilà, avec les sureaux qui sont en fleurs, les cornouillers sanguins, le buis, tout ça, c'est des plantes mellifères. Hein. Ouais. Il y a un tilleul en face. Vous voyez, Denis, ça, c'est un prunier sauvage. Hein. Je l'ai planté, c'est un prunier qui pousse sauvage comme ça dans la nature, je l'ai planté, il est couvert de prunes. Ouais. Ça, c'est un prunier Reine-Claude que je suis allé acheter en pépinière, je l'ai planté là.
Rien.
Deux Reine-Claude. Oui. L'année dernière, il y en a eu une. Je présente la Reine-Claude de l'année. Il ne faut pas que je la rate. Allez,
bonjour, mademoiselle.
Je me demande si les arbres naturels sont pas mieux protégés contre les maladies que les arbres qu'on achète en pépinière.
Donc ça, c'est une manière de faire revenir de la biodiversité, donc
finalement de repiquer dans
des variétés anciennes,
des plantes sauvages.
Voilà Patrick Deschamps qui n'a pas sa langue dans sa poche, et c'est ce que nous aimons dans cette émission et en général sur France Inter, dans C'est haut de mon amour avec vous, donc Eric Tourneret, ce livre, donc les routes du miel. Alors, vous l'écoutiez avec intérêt, parce que c'est vrai qu'il...
Vrai que lorsque je voyage en France, j'ai l'impression que je mange uniquement du maïs et du colza, c'est certain.
Ouais. Et donc il y a des tas de choses, hein, vraiment à notre niveau, on peut faire revenir de la biodiversité, on pourra refaire d'autres émissions sur ce thème-là, parce que c'est pas compliqué, hein, que vous ayez 10, 20, 30 mètres carrés, peu importe, c'est tout à fait possible. Je vous signale une association qui s'appelle Gare aux abeilles, qui a sorti un petit ouvrage très sympa, Un apiculteur, une apiculture, c'est 30 témoignages de passionnés de l'abeille, vous êtes d'ailleurs dedans, c'est signé Stéphanie et Serge Bouet. Et on vous met donc les coordonnées sur le site.
Coquille, désertant la caserne qui me gouverne pour flâner dans la rue avec d'autres recrues dans nos manteaux d'hiver. Papillon vert, c'est au cœur de la ville, la vie civile que nos soldes sont bus, avec en vue des bourgeois enchantés de se désargenter, d'aller faire les boutiques. Papillon chic, les papillons, les papillons, les papillons. Les papillons, 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 les papillons. Le diable nous emporte avec les feuilles mortes au grand bal des fantômes. Papillons jaunes, ou dans quelques manèges, sous les flocons de neige, angéliques et mouillants. Papillons blancs, la cigarette au bec, je poursuis ma cueillette en regardant descendre un papillon de cendre dans l'anonymat d'une salle de cinéma parmi d'autres poussières en avis de lumière. Les papillons, 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 les papillons. Je n'ai pas satué le temps sans connaître la gloire d'être un seul soir un as de la voltige, matador de 20 piges, un coquelicot qui bouge. Papillon rouge, moi c'est grise d'alcool que je prends mon envol dans la rue vers minuit. Papillon gris, la lune le libère et sous les réverbères ce sont les noctambules qui déambulent. Les papillons, les papillons, les papillons. Les papillons, 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 les papillons. Parfois parmi le nombre, on croise une ombre qui fait parler ses yeux. Papillon bleu, mais on n'écoute rien, on pense à autre chose quand ses lèvres nous causent. papillon rose. Et parfois on la suit sous son grand parapluie, même son prénom nous fuit. Papillon nuit, et quand le lendemain il reste sur la main l'ombre de son parfum, tout un jardin. Elle est déjà loin, elle n'est plus qu'un point, et c'est le désespoir. Papillon noir, car sur le guéridon, griffonne et au crayon, il reste un papillon. Adieu Léon.
Eh oui, Léon, bah tenez, pour les enfants, Léon le papillon, Anton Krings aux éditions Gallimard, comme ça de mémoire. Thomas Fersen, on avait hésité hier aussi avec la chauve-souris de Thomas Fersen, excellent pollinisateur, Éric Tournerel,
oui, la chauve-souris. Hein. La chauve-souris est un bon pollinisateur des baobabs en Afrique.
Et alors, si on veut voir de la biodiversité, alors là, on va en Roumanie. Là aussi, vous avez des photos extraordinaires, vous racontez, ça fait partie de vos 25 voyages. Alors là, qu'est-ce qu'on a une tradition quand même apicole très forte dans l'est de... enfin, du côté de la Roumanie.
Oui, dans l'est de l'Europe, à l'époque communiste, les apiculteurs installaient leurs ruches sur des camions et ils voyageaient en suivant les floraisons, et en vivant en fin de compte avec leurs abeilles constamment. Il y avait une cabine aménagée et aujourd'hui cette tradition perdure.
Mais attendez, c'était aussi politiquement très intéressant parce qu'on n'était pas astreint à un travail réglementé. Donc ceux qui avaient soif de liberté devenaient aussi apiculteurs.
Oui, tout à fait. C'était vraiment synonyme de la liberté et c'est complètement surprenant qu'un petit pays comme la Roumanie a toujours 70 000 apiculteurs. Et à l'époque, c'était vraiment une façon de vivre très particulière et de liberté, où en fin de compte, les gens pouvaient rêver.
Et il y a la plus grande forêt de tilleuls, je crois, en Europe, qui se trouve en Roumanie, je ne sais pas où exactement, mais c'est dans la plaine enfin...
Près du delta du Danube, d'accord. En fin de compte. Et en fin de compte, les apiculteurs roumains voyagent des Carpates, hein, des montagnes, et ils descendent à la saison, à partir de juin, vers les grandes plaines, pour la grande forêt de tilleuls. Et là, ils se retrouvent en communauté d'apiculteurs, et c'est assez intéressant de les rencontrer. Ils sont très proches les uns des autres, et cette forêt de tilleuls est magnifique et donne un miel excellent.
Et ça peut résister, ça, donc, à l'agriculture industrielle ?
Alors, actuellement, la situation est complètement en train de changer, car la Roumanie est rentrée dans la communauté européenne et est passée à une agriculture beaucoup plus chimique. Mmh. Les dernières années, j'ai un ami apiculteur qui, à l'époque, en 95, en soi, avait une centaine de ruches. Il est passé, il a doublé son cheptel en quelques années. Il s'est acheté une maison, ça a très très bien marché en Roumanie. Mais actuellement, il change sa manière de pratiquer l'apiculture. Il veut rediviser ses cheptels en petits ruchers et rester basé vraiment sur les Carpates, où c'est vrai une explosion de biodiversité. C'est vrai que vous passez la frontière hongroise, où tout est au carré et où ils utilisent pas mal d'herbicides. Et là, vous voyez des mauvaises herbes partout, enfin des mauvaises herbes.
Alors, nous parlons évidemment de ces abeilles. On a beaucoup parlé des abeilles mellifères, mais on a très envie aussi de parler des abeilles sauvages. Bonjour Bernard Vessière.
Bonjour.
Alors Bernard Vessière, vous êtes chargé de recherche au laboratoire pollinisation et écologie des abeilles à l'INRA à Avignon. Vous faites véritablement autorité dans ce domaine. Alors parlez-nous de ces abeilles sauvages quand même. Où est-ce qu'elles vivent? Combien en a-t-on? Et puis leur rôle, s'il vous plaît.
Mais écoutez, ces abeilles sauvages, il faut quand même réaliser que le terme abeille en français est un peu usurpé. C'est pas uniquement l'abeille mellifère, l'abeille domestique, qui donne un miel merveilleux, c'est sûr. Mais c'est 930 espèces en France et 20 000 dans le monde. Donc c'est les bourdons, c'est les mégachiles. Alors tout le monde connaît les bourdons. C'est Léon le bourdon, hein, pas seulement Léon le papillon.
Eh oui.
les mégachiles, les xylocopes, ces grosses abeilles noires, violets. Toute cette biodiversité, en fait, on a plus d'espèces d'abeilles en France que d'espèces de mammifères, d'oiseaux, de batraciens et de reptiles réunis. Donc c'est vraiment une biodiversité considérable. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on se préoccupait pas énormément de ces abeilles sauvages. Or, aujourd'hui, de plus en plus, on réalise qu'elles sont essentielles pour la pollinisation des plantes.
Alors, vous avez fait des études, c'est-à-dire qu'elles polliniseraient peut-être davantage même que les abeilles mellifères.
Oui, c'est exact. C'est exact. C'est-à-dire qu'elles interviennent pour la pollinisation de façon très importante. Elles sont souvent plus efficaces que l'abeille mellifère. On ne comprend pas encore complètement pourquoi. En tout cas, tous les éléments, mais elles sont extrêmement importantes. Et alors, ces abeilles, on les retrouve en fait un peu partout. Même si jusqu'à présent, on n'y prêtait pas beaucoup attention. On a réalisé une grosse étude dans la ville de Lyon, qui s'appelait Urban Bees, où on a trouvé plus de 300 espèces d'abeilles. dans le Grand Lyon, et puis dans le centre de Lyon, on en a encore 50 espèces. Donc c'est des abeilles qu'en fait on retrouve partout, parce que elles nichent dans des tiges creuses, elles nichent dans le sol. La plupart de ces abeilles, 80%, nichent dans le sol. Donc elles sont, on les retrouve vraiment dans des endroits très très divers. Souvent on les retrouve dans les trous d'aération des fenêtres, ou dans des trous de chaises, ou des choses comme ça. Donc on pense pas toujours, quand on voit un petit trou dans la terre, aux abeilles. Or, très souvent, en fait, c'est l'entrée d'un nid d'une de ces abeilles. Alors ces abeilles, elles sont bien différentes des abeilles mellifères auxquelles on pense toujours. La plupart ne sont pas sociales, sauf les bourdons, bien sûr, et puis quelques espèces de ces abeilles sauvages qui sont sociales. Mais la plupart sont solitaires. Donc c'est le même individu qui va réaliser la recherche de nourriture, le butinage, et puis la partie production de descendants, enfin, qui va pondre et qui va élever ses larves. Et donc ces abeilles vont récolter du nectar et du pollen, souvent non pas sur de façon très généraliste comme l'abeille domestique sur un très grand nombre d'espèces, mais sur quelques espèces apparentées. Par exemple, on a des abeilles qui sont spécialisées sur les composés, ou d'autres sur les ombellifères comme la carotte. Et ces abeilles, en fait, à l'état adulte, elles ne vivent pas plus longtemps que l'abeille mellifère. Elles vont vivre pendant quelques semaines. Certaines espèces peuvent même être totalement inféodées à une espèce de plante. C'est le cas de la collecte du lierre. En ce moment, il y a le lierre qui commence à fleurir. Et bien, si vous regardez un petit peu le lierre, vous verrez, il y a des abeilles domestiques, mais il y a aussi ces abeilles qui sont un tout petit peu différentes, qui sont très très jolies, qui s'appellent la collecte du lierre, et qui récoltent tout leur pollen sur le lierre et qui sont totalement inféodées à cette espèce.
En tout cas, merci.
Pardon, je
vous en prie, Bernard Vessière, parce que je voulais vous remercier de nous avoir présenté donc ces abeilles sauvages, parce qu'on les entend beaucoup moins, on va dire, butiner comme ça dans le poste. Et là aussi, elles ont les mêmes menaces, on imagine bien, avec agriculture intensive et pesticides,
elles ont,
etc.
Elles ont les mêmes menaces, elles en ont même plus, en fait, parce qu'il y a un seul individu. Donc vous n'avez pas la colonie qui protège en quelque sorte la reine,
qui peut prendre le relais,
l'élément reproducteur pour chez l'abeille mellifère. Là, c'est le même individu qui assure l'alimentation et puis la reproduction. Et donc, elles sont extrêmement en danger. Une étude récente au niveau de l'Europe a montré que près de 25%, un quart des espèces de bourdons, on en a plus de 50 espèces en France, et ben au niveau de l'Europe, un quart des espèces de bourdons sont menacées. Et sur l'ensemble des abeilles sauvages en Europe, c'est 13% qui sont en fait vraiment en situation menacée. Mais ce qui est encore plus dramatique, c'est qu'en fait, pour 60% des espèces, on n'a même pas suffisamment d'informations pour déterminer si elles doivent être ou non sur une liste rouge. Voilà. Donc on sait très peu de choses sur la plupart de ces espèces, mais aujourd'hui, comme on prend conscience de leur importance dans la pollinisation des plantes sauvages et des plantes cultivées, on commence à s'y intéresser, et c'est vraiment une bonne chose. D'ailleurs, le gouvernement a lancé le plan national d'action sur les insectes pollinisateurs sauvages, France Terre de Pollinisateurs, et on espère que ça va permettre d'avancer sur la connaissance et la protection de ces abeilles sauvages.
Merci.
Parce qu'on ne remplacera jamais les abeilles domestiques par les abeilles sauvages et vice-versa. Elles sont indispensables toutes les deux.
J'ai bien fait de vous laisser continuer parce que c'était important. La dernière phrase était aussi extrêmement importante. Merci à vous Bernard Vessière, donc je rappelle, un chargé de recherche au laboratoire pollinisation et écologie des abeilles à l'INRA à Avignon, qui est en pointe quand même sur ces sujets. Faut bien le dire, vous n'êtes pas les seuls, mais quand même vous êtes en pointe. Et donc Éric Tourneret, donc vous écoutez là aussi. Bon, voilà, on essaye de faire ce que l'on peut. Elles vivent dans la terre, donc faut faire attention aussi peut-être où on met les pieds. On voit des petites buttes de terre. Juste un petit mot quand même aussi Bernard Vessière, parce que alors on peut voir ces photos. Hein, rappel hein, sur les grilles du Luxembourg, pardonnez-moi, voilà, et donc du Sénat, voilà. Et alors, là aussi, peut-être, ça fait, on est proche du pouvoir hein, en quelque sorte. Donc c'est intéressant, ça peut faire bouger un petit peu les choses. Hein,
oui, j'espère que cette exposition pourra toucher les consciences et faire évoluer les choses.
Bon, on vous renvoie donc à cet ouvrage. On n'a pas eu le temps de parler des abeilles sandars, parce qu'il y a les fameuses abeilles sandars, puis les abeilles aussi africanisées, hein, donc, qui ont
oui,
été
il y a
des croisements.
Plus de 500 espèces d'abeilles sandars.
Oui.
Qui récoltent du miel et qui vivent en colonie.
Je veux vraiment vous renvoyer à cet ouvrage superbe, Les Routes du Miel, préfacé par Jean-Claude Amezen, Éric Tourneret, Sylla de Saint-Pierre, chez Ozzy Noni, la semaine prochaine. Ah bah tenez, on va passer à une autre bestiole. Il s'appelle l'ours. Moi, je serai en direct de France Bleu Pau Béarn, ce qui tombe assez bien. Il y aura Jean-Jacques Camara de l'ONCSF, de l'FS, pardon, Christian Laborde, l'association aussi du Pays de l'Ours qui sera là, des reportages. Donc, ce sera l'ours, le nôtre, notre nounours, qui évidemment toujours extrêmement décrié, ce qui est normal quand on est éleveur. J'aurai d'ailleurs aussi un reportage avec les éleveurs, donc la semaine prochaine. Le podcast, vous le savez, est à votre disposition. Le site de CO2 Mon Amour, avec Anne Gouzon, donc, qui le nourrit. Donc là aussi, si vous souhaitez laisser des messages, ne vous gênez pas. Le Twitter chez Sous, tout simplement. Merci à Claire Destacan, à Xavier Pestugia qui réalisait l'émission, Éric Mainviel, Philippe Duclos, Denis Chessou. On vous souhaite un bon week-end.